fréquence Mistral.
Quand tu auras fini de donner un look 1917 à l'appartement, j'espère que tu auras de quoi payer la casse.
Cordélia, ce que j'aime tes cheveux.
Je peux pas en dire autant des tiens.
Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fréquence Mistral, le comté de Gap 107.3. Vous pouvez nous écouter également sur internet, figurez-vous, sur le www.fréquencemistral.com. Vous allez sur l'onglet de Gap et là vous avez un tout petit lecteur tout en haut vert. Vous cliquez dessus et puis vous pouvez nous écouter, c'est magique tout ça. Et aujourd'hui nous sommes le jeudi 22, comme je vous l'annonçais depuis un bail déjà, enfin nous y sommes à cette date, jusqu'à peut-être 10h selon l'évolution des débats dans cette matinale spéciale. Nous sommes en direct dans le cadre des journées des familles organisées par le REAP des Hautes-Alpes, Marie Domarc, médiatrice familiale à l'UDAF 05, et nos invités sont présents pour une émission spéciale sur la thématique « Nouvelles familles nombreuses ou recomposées ? Comment trouver sa place dans cette moderne family ?» Entre guillemets, les familles recomposées ou les nouvelles familles nombreuses inventent tous les jours leur mode de vie. Comment harmoniser les habitudes, les règles de vie et les rôles de chacun? Quelle place prendre auprès des enfants de l'autre parent? Quelle autorité avoir? Doit-on avoir des loisirs avec tous les enfants ou avec nos propres enfants? Quelle relation avec les multiples grands-parents? Autant de questions, autant de réponses, autant de débats. Le but de cette émission spéciale est de témoigner en toute objectivité, sans complexe et sans protocole sur ces familles qui apprennent progressivement au fil de la vie à s'apprivoiser les uns les autres. Et la douce musique que vous entendez, c'est le groupe Azure Ray qui est composé de deux jeunes femmes canadienne et d'ailleurs ça s'appelle November, ça justement, ça tombe bien, nous sommes au mois de novembre et sachez que il y a quelques jours encore pour cette manifestation, il y a plein de choses autour des journées des familles là depuis ce début de mois et vous avez encore jusqu'à la fin de ce mois, on vous en dira plus en fin d'émission. I'll just sit and stare at my Et devant moi, dans nos studios, Marie Domarc est là. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors voilà, on va un peu présenter un peu tout ce qui est autour et bien de cette action qui a lieu tout au long de ce mois et puis vos fonctions au sein de l'UDAF 05. C'est parti, c'est à vous.
Oui, donc du coup, je fais partie du service d'accompagnement des familles de l'UDAF qui comprend le REAP qui organise ces journées des familles et le service de médiation familiale et d'entretien familiaux. Donc la médiation familiale, en deux mots, c'est quand les gens se séparent, donc c'est avant une recomposition souvent, et c'est comment continuer à être des parents, même si on n'est plus sous le même toit, on a l'autorité parentale conjointe. Et puis les entretiens familiaux, c'est plutôt quand il y a des difficultés dans une famille qui vit sous le même toit, donc ça peut être une famille, comme on dit, classique, nucléaire, ou une famille monoparentale, ou une famille recomposée, enfin bref, tout type de famille qui vit sous le même toit. Et là, c'est plutôt quand il y a des difficultés dans l'organisation, qu'il y a un enfant qui est en difficulté, et là, il y a quelques entretiens familiaux pour donner un coup de pouce à cette famille.
Très bien.
Et nous, pardon.
D'où l'idée justement d'avoir concocté cette petite émission. Il travaille depuis déjà quelques semaines.
Tout à fait. C'est vrai que on a souvent eu des appels téléphoniques de personnes qui sont en famille recomposée en disant on aimerait bien trouver des pistes, des réflexions, voilà. Donc du coup, on s'est dit que cette thématique était importante puisque beaucoup de personnes sont en famille recomposée aujourd'hui.
Oui, effectivement. Et nous avons quelques témoins. On va leur donner la parole dans quelques secondes. Ils sont en plateau, Sabrina, Lucie et Fabrice. Bonjour. Approchez-vous du micro, n'ayez crainte.
Bonjour.
Ce ne sont
Bonjour.
Que des objets. Alors, on va parler un peu de la cellule familiale, entre guillemets, de Sabrina. Sabrina, alors comment ça se passe chez vous? Dites-nous tout.
Alors, bonjour à tous. Ben, chez nous, ça se passe plutôt bien. Donc, on est une famille recomposée depuis maintenant quasiment 6 ans. Donc de mon côté, 3 enfants du même papa et de l'autre côté, 4 enfants de la même maman. Nous vivons tous sous le même toit, sauf les 2 plus âgés de mon conjoint qui sont déjà adultes, donc ont leur propre vie. Les 5 autres enfants donc, sont tout le temps avec nous, vu que la maman des enfants est décédée et le papa des miens... ne peut pas souvent les prendre, donc voilà, ils ont recréé une vraie fratrie en fait. Il n'y a pas de différence entre les enfants. Mmh. Ils font pas de différence, ils se considèrent comme des frères et sœurs naturels en fait. Même s'ils savent qu'ils ne le sont pas, donc c'est plutôt bien.
C'était l'évidence tout de suite.
Ça a été une évidence pour eux tout de suite de vouloir vivre ensemble et ça s'est fait très naturellement et très facilement. Mmh. Et ils ont tous fait des concessions au niveau des chambres, ça s'est fait tout seul entre eux, on n'a pas eu à intervenir, donc malgré qu'il y avait des adolescents au milieu, donc c'était plutôt sympa, quoi.
D'accord. Pour ce qui est des plus grands, il y en a un déjà qui a quitté la maison et qui est en passe de quitter la maison. 2, c'est ça?
Il y en a 2, en fait, qui vivaient déjà plus avec leur papa, mm-hmm. Dont un qui a déjà une petite fille. Mm-hmm. Voilà. Donc, eux, donc, on les voit de temps en temps, mais c'est moins... En fin de compte, ils font moins partie de la nouvelle fratrie, j'ai envie de dire, parce que ils vivent pas avec mm-hmm. nous. Donc. Mais c'est pas pour autant qu'ils font pas ouais. partie de la famille, mais c'est un lien différent qui se crée, en fait.
Mm-hmm. Au niveau des comment ça s'est passé au niveau des activités tout simplement des sorties. Allez, on va parler de choses un peu plus
très naturellement en fait à partir du moment où on fait une famille enfin les activités c'est tous ensemble.
Les
en fait,
anniversaires, les sorties, les balades
Tous ensemble, c'est adapté à chacun puisque nous on est un peu un cas particulier, on a un enfant handicapé à plus de 80% qui mmh. est atteint de trisomie 21 mmh. et on a des enfants précoces. Donc, il a fallu harmoniser tout ça, mais en fait, ça s'est fait très naturellement. Donc, les activités sont adaptées, et puis chacun s'adapte à l'autre. Et non, ça se fait, ça se discute, qui a envie de faire quoi. Après, ceux qui n'ont pas envie de venir, forcément, ils peuvent rester aussi tranquilles à la maison. C'est pas une obligation, mais en général, tout le monde vient. Hein.
Ouais, c'est une fille, la petite dernière ou l'avant-dernière, c'est ça ?
La dernière, c'est une fille, oui, qui a 11 ans.
Voilà. Et elle s'occupe donc.
Elle s'occupe beaucoup de son frère de cœur, on va dire, qui mm-hmm. est trisomique, qui va avoir 14 ans. Et pour elle, c'est très important de s'occuper de lui. Et c'est une vraie. Donc elle est précoce et c'est une vraie maman avec lui. Et ça le fait beaucoup évoluer, en fait. Et ils ont un lien très fort.
Ça l'aide dans son cheminement.
Ah oui,
et,
oui.
Et
oui.
elle et lui aussi.
Lui, ça l'aide énormément dans son cheminement. Il est scolarisé en IME. Institut médico-scolaire éducatif et en fait ils le reconnaissent plus quoi depuis cette recomposition, le fait qu'ils soient noyés dans une grande fratrie, qu'on fasse plein de choses ensemble, ça le booste, ça l'oblige à ça le pousse en fait tout le temps, donc des fois ça peut être je pense, fatigant pour lui. Mais en même temps, ça, voilà, ça fait qu'il n'est plus dans son handicap et il est considéré, en tout cas à la maison, comme un enfant normal. Et moi, je tiens à ce qu'il fasse tout normalement, débarrasser la table, mettre la table, ramasser ses chaussettes, enfin, la totale, quoi. Donc, ça l'énerve un peu des fois, mais bon, c'est pas grave, il grandit bien, du coup.
Voilà. Il n'y a pas de degré ou d'appartenance, jalousie, vous n'avez pas eu quelques moments un peu tendus au début, et si tel est le cas, vous en avez peut-être discuté, et puis là aussi, ça s'est
En fait, il n'y a pas eu de tension, parce que dès le départ, ça a été très clair. Ça a été, on se regroupe tous, donc ça a été au départ dans, j'ai envie de dire, mon appartement, puisque c'est moi qui avais le plus grand logement. Donc c'était l'évidence de se mettre... Et à partir de ce moment-là, on a fait en fait une... Avant même d'avoir les cartons dans la maison, on a fait une réunion, et on a dit, bon ben voilà, ici, c'est pas chez Sabrina ou chez Pierre, Paul, Jacques, c'est chez nous, nous tous. La télé, elle n'est pas à moi, le canapé à toi, la play au grand, les Playmobil au plus petit. Non, tout le monde est, tout est à tout le monde. Et ici, vous êtes les enfants, nous sommes les adultes, et point final.
Voilà.
Et du coup, ça a été nickel.
Donc, il y a des règles. Il y a des règles,
ah oui,
mais
bien sûr.
Qui sont...
Il y a des règles en famille nombreuse, il y a des règles.
Et voilà, qui sont toutefois bien comprises et bien intégrées.
Mais oui, puisque tout le monde est respecté, donc il n'y a pas de problème.
Très bien. On va passer... à Fabrice et Lucie. Vous pouvez vous rapprocher. Approchez le micro, hein, n'hésitez pas. Alors vous, quelle est votre situation? Dites-nous tout.
Alors bonjour tout le monde. Nous, on est dans un modèle un peu plus réduit et un peu en amont. C'est-à-dire que donc mon compagnon Fabrice a déjà deux enfants qui ont 11 et 7 ans. Et moi, je ne suis pas encore maman, mais je vais pas tarder à l'être donc dans 2 mois. Donc on a recomposé une petite famille, mais pour le moment c'est un peu moi qui suis la pièce rapportée, on va dire, jusqu'ici. Et on a les enfants en garde alternée, donc on les a une semaine sur deux à peu près, sachant qu'on adapte en fonction de chaque parent. Donc, voilà.
Comment ça se passe au niveau du relationnel? Comment ça s'est installé? Est-ce que ça a été tout de suite comme Sabrina, quelque chose qui coulait de source?
Ça fait à peu près 3 ans qu'on est ensemble là avec Fabrice. Ça se passe plutôt très bien. On a remarqué quand même que les enfants s'adaptent assez vite. Hein, c'est plus un problème d'adulte finalement. Y a des choses qu'on peut pas forcément évaluer. C'est vrai que chez le plus grand, c'est plus dur d'évaluer les problèmes que ça peut poser chez lui, mais ils n'ont jamais vraiment exprimé de problèmes par rapport à ça. La séparation, bien sûr, avec la maman était difficile, mais avec moi, il y a une très bonne relation qui s'est installée. Je trouve qu'ils sont vraiment adaptables, en fait, les enfants, c'est ce qu'on a constaté quand même assez vite. Surtout, alors, nous, c'est notre témoignage à nous, parce qu'ils sont assez jeunes. On a l'impression que si ça se passe aussi avant 10 ans, c'est peut-être plus facile, enfin, ça, on n'a pas vraiment pu évaluer encore, mais on se dit que quand ils sont jeunes, ils s'adaptent assez vite. Après, voilà, ça a demandé une adaptabilité des adultes aussi. Moi, j'ai dû trouver ma place aussi petit à petit, exprimer bien mes besoins pour que chacun soit respecté, mais franchement, le bilan est plutôt positif. On n'a pas encore le retour, du coup, par rapport aux nouveaux enfants à venir, mais on constate que pour la petite, en tout cas, elle est très contente de la grossesse. Ça resserre un peu les liens globalement, et on a l'impression que la famille, petit à petit, les liens se resserrent, et que c'est d'une bonne qualité dans l'ensemble.
Ils ont bien pris la nouvelle. 11 ans et 7 ans, hein, c'est ça,
11 ans et 7
Fabrice.
Ans. Ouais.
Voilà, et puis là aussi, ça. Ça commence à faire son cheminement, donc il y a eu peut-être là aussi une explication, un nouveau ou une nouvelle va arriver, et là ça a été tout de suite... Qu'est-ce que vous avez constaté chez eux, leur premier sentiment peut-être?
Alors pour le grand, ça a été un peu plus compliqué, en tout cas il n'était pas d'accord a priori avec l'idée dans tous les cas, quand on en parlait comme ça pour rigoler avant que ça arrive... ou qu'on lui soumettait un peu l'idée, il était contre, il voulait pas de petits frères ou de petites sœurs, mais je pense que de manière générale, il en voulait pas. Ils étaient contents d'être tous les deux et ça suffisait. Et puis une fois que ça a été une vraie nouvelle, une vraie information, ben là il a été plus cool. Je pense que d'imaginer la réalité de la chose, il a vu aussi les bons côtés en fait, et on l'a beaucoup rassuré. C'est vrai qu'on a essayé de parler en tête à tête avec chacun d'entre eux, de vraiment être à leur écoute et puis de les rassurer un maximum. Alors après on n'y est pas encore, mais bon. On touche du bois.
C'est vrai que l'annonce d'un nouvel enfant, c'est aussi signer l'arrêt complet pour un enfant du couple parental. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça vient concrétiser, bon, papa et maman, ils ne se remettront jamais ensemble. Même s'il y a un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, pendant un temps, les enfants, ils rêvent encore d'un éventuel retour des parents ensemble. Et là, tout d'un coup, et c'est pour ça que peut-être au début, il n'était pas d'accord. Et puis tout d'un coup, la réalité arrive. Et donc, il y a une acceptation qui se fait. Et j'ai plus besoin de me bagarrer. De toute façon, ça y est, c'est là, quoi. Hein. Voilà. Il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là, de l'acceptation pour les enfants de cette nouvelle famille.
Marie, quand on préparait cette émission, d'ailleurs, on parlait de la place des enfants, par exemple le ou la dernière ou le dernier qui finalement n'est plus
le dernier, voilà, d'un coup, quelquefois. Ouais. Ou
donc,
bien
coup,
alors
l'aîné qui devient
avec des nouveaux enfants qui arrivent dans la fratrie, tout d'un coup c'est plus l'aîné non plus. Mmh. Donc il y a un changement de place des fois pour les enfants qui devient un peu compliqué. Mmh. Dans votre situation, le grand, il sera toujours le grand, mais la petite dernière sera plus la petite dernière quelque part. Ce sera la petite dernière de sa maman, mais peut-être qu'un jour, ce sera même plus la petite dernière de sa maman.
Donc vous, Sabrina, pareil, vous êtes passée aussi par cette phase. Vous avez un peu constaté, comment dire, pas non plus des tensions, mais...
Une adaptation à faire.
De chacun des enfants par rapport à leur place dans la cellule familiale.
Je sais pas, j'ai pas senti de problème à ce niveau-là. Après,
peut-être pas de problème, mais une prise de conscience.
Mais en fait, ça a pas réellement changé pour nous, puisque la petite dernière est restée la petite dernière.
C'est vrai. Oui.
Le petit dernier de mon compagnon est trisomique, donc pour lui, je pense pas qu'il, lui, il aime les gens. Il est amour, quoi. Il est incapable de taper. Il est incapable de tout ça. C'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Donc lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir plein de gens autour de lui. Donc lui, il faut qu'on soit tous ensemble. Sinon, voilà, il cherche son monde tout le temps. Et après, mon fils, du coup, qui vient d'avoir 18 ans, qui lui, donc, était le plus âgé de mes enfants, finalement, reste le plus âgé, puisque les plus âgés de mon conjoint ne vivent pas avec nous.
Mmh, d'accord.
Et que celui qui vient juste après a 17 ans, donc juste un an de moins. Donc, du coup, ça n'a pas changé la place.
Leur place n'a pas changé.
Personne n'a changé de place. Mmh. Et les deux qui étaient au milieu, donc celui de mon conjoint qui a 17 ans et ma fille a 17 ans aussi, donc ils ont le même âge à quelques jours près. Donc en fait, eux non plus n'ont pas changé de place. Ils ont une place, coup, exactement la même.
Avec votre conjoint, comment a été l'évolution ?
L'évolution par rapport à...
Par rapport à vos enfants. Là aussi, c'était... il n'y a pas eu de temps d'adaptation. Ça a été tout de suite aussi... dans une mouvance familiale.
Mais en fait, nous, on a fait les choses progressivement, c'est-à-dire qu'en fait, on se voyait les week-ends. Donc, on faisait un week-end chez l'un, un week-end chez l'autre. On se trimballait les sacs, les affaires, les machins. Enfin, c'était l'horreur, quoi, pour les parents, en tout cas. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, on en a un peu marre. Les enfants en avaient marre aussi d'être trimballés, hein, droite à gauche. Donc, on leur a dit, voilà, de deux choses l'une. Soit on continue comme ça, chacun chez soi, et puis voilà. Soit on se réunit. Voilà, on leur a demandé leur avis, clairement. On a dit, voilà, maintenant, je pense qu'on peut en parler tous ensemble, vous êtes concernés aussi. Et là, ils ont dit, non, mais c'est bon, on se réunit, quoi. On en a marre, puis de toute façon, on est tout le temps ensemble. Donc, clairement, voilà, la semaine, ils étaient chacun à l'école, donc ils n'avaient pas le temps de toute façon de se voir. Et le week-end, dès qu'ils avaient des moments de libre, en fait, on était ensemble. Donc, ils ont dit, c'est complètement idiot, autant qu'on soit tous ensemble, quoi.
C'est vrai qu'on parle beaucoup du temps... Que mettent les enfants à s'adapter à ces nouvelles situations de cellules familiales, mais on oublie aussi les parents qui sont justement dans ce cas de figure. Au début, vous étiez en mode nomade, on pourrait dire.
Oui, en mode nomade, c'est fatigant.
Hein. Oui. Et vous, Fabrice et Lucie, comment ça s'est passé ?
Alors moi, je rebondis sur ce que disait Marie par rapport au rêve de l'enfant de revoir ses parents ensemble. Et c'est amusant parce que justement, notre grand, donc il y a 11 ans, hier nous disait « Cette nuit, j'ai rêvé que vous remettiez ensemble. » Donc papa, maman. Mais c'était vraiment un rêve. Il avait conscience que c'était un rêve, que c'était pas un fantasme espéré quand même. Et on en parlait, on rigolait, on se dit bah oui, peut-être ça serait sympa. On habiterait tous dans une grande maison et ça serait plus simple pour tout le monde. Mmh. Et du coup, on a abordé ce sujet parce que je pense qu'il y a un film justement qui parle de cette actualité là. Et il est assez détendu. Au début, c'est vrai qu'on s'est mis assez rapidement ensemble avec Lucie après notre séparation entre sa mère et moi, et qui a été assez brutale. Donc pour lui, ça a été quand même un choc. Il avait du mal. On le sentait plutôt dans la protection. Mmh. C'est-à-dire qu'il avait plutôt envie de protéger ses acquis, voilà, son fonctionnement, et ça perturbait de nouveau ses habitudes. Mais il avait rien contre Lucie particulièrement. Et puis, comme tout s'est bien passé, qu'on passe beaucoup de temps ensemble, on est très fusionnel, on est très câlin, tous d'ailleurs, tous les quatre. Bah aujourd'hui, ça se passe très très bien. Et franchement, j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait de l'animosité ou de la jalousie. Il a même avoué le lendemain qu'on lui a annoncé la venue d'un bébé, que finalement il sentait du bonheur en lui. Donc c'était agréable à entendre. Hein. Et quelque part, il avait à la fois peur, il le reconnaissait, il est assez vite angoissé quand même, mais en même temps, il sentait que c'était un plaisir à venir. Donc ça fait plaisir quand même.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que les enfants, le jour où ils arrivent à distinguer, ok, je rêvais que papa et maman se remettaient ensemble, en médiation, on leur demande, tu aimerais, à ton avis, tu aimerais entre 0 et 10, tu aimerais que tes parents se remettent ensemble, ce serait quoi? Alors souvent les enfants disent 8, des fois il y en a qui disent 2 parce qu'ils s'engueulaient tellement que c'est préférable qu'ils soient pas ensemble, mais c'est rare. Et est-ce que tu penses que dans la réalité, tes parents, ils se remettront ensemble? Et souvent, ils ont vendu non, 0. Donc, quand ils arrivent à faire ce distinguo entre leur envie, parce que c'est toujours un rêve, et leur réalité, là, c'est gagné pour eux. Et c'est un peu ce que vous êtes en train de dire avec le rêve de votre garçon, là, qui a dit, j'ai rêvé.
J'ai l'impression que c'est ce qu'il nous a dit, ouais.
C'est ça. Ouais. Il a compris le réel, malgré son envie, bon, qui est normal.
Mais ça devient concret tous les jours un peu plus, hein, parce que là, on peut plus le cacher. À 7 mois de grossesse, je pense qu'il se rend compte que ça va bientôt arriver.
Et du coup, il y a un univers qui est un peu chamboulé, mais aussi il y a des projets. Est-ce que celui qui a 11 ans commence déjà à parler du futur concernant le bébé à venir, c'est-à-dire est-ce qu'il commence déjà à faire des projets du style ah, ben on va l'amener balader, on va faire ci, on va faire ça, on va jouer, on va le pouponner. Vous avez eu déjà ce
grand,
type d'approche?
Non, je pense qu'il n'est pas là-dedans. Il est beaucoup dans son environnement présent et ses préoccupations à lui. Ouais. C'est plus la petite qui va être dans la projection. Hein. Ouais. Parce qu'en plus, elle adore pouponner, donc on parle chiffon avec elle, ouais. on projette déjà des choses, et puis comment ça va être et comment il va s'appeler, tout ça. C'est plus avec la petite, ouais. Et là, on sent qu'elle y pense, qu'elle est déjà là-dedans. Lui, il vient de rentrer au collège, donc il a d'autres choses en tête, quoi.
D'autres préoccupations.
Oui, par exemple, le choix du prénom, là aussi, ça peut être dans un processus de jeu, finalement.
Ah, ça, c'est évident qu'on joue tous les jours. Hein, donc, on leur fait plein de propositions pour voir un peu, comme ça, en rigolant, ce qui pourrait passer. Alors, on taquine un peu, hein, bien sûr, on va choisir des prénoms particulièrement pas à la mode pour voir si ça les intéresse, s'ils ont des idées, s'ils osent s'exprimer. C'est vrai que la petite, elle nous montre assez souvent comment tenir un bébé avec ses poupées. Tiens, voilà. Ah oui. Elle nous montre qu'elle peut être responsable. Lui, en fait, il évoque rarement la question. Il se demande juste comment ça va se passer pour lui, à mon avis, pour l'instant. Hein.
Ce que j'entends dans les deux situations, quand même, c'est que pour que cette famille prenne corps, hein, vous avez beaucoup discuté avec vos enfants. Que ce soit Sabrina ou que ce soit Fabrice et Lucie, vous en avez parlé et vous avez tenu compte de leurs besoins. Ça, j'ai bien entendu des deux côtés. Hein. Pareil pour les chambres, le partage des chambres.
Même avant une séparation, une recomposition, j'ai toujours beaucoup discuté, beaucoup expliqué les choses, passé beaucoup de temps à parler avec eux. Et du coup, ça semble naturel. Et après, eux font d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'eux-mêmes viennent parler et du coup. Ça fait que ça, en fait, ça, ça met un stop à d'éventuels problèmes très rapidement. Mmh. Vu qu'ils viennent parler, avant même qu'il y ait un problème, ils viennent en parler. Mmh. Ils viennent parler d'une angoisse ou de ce qui pourrait, ou d'une peur qui pourrait y avoir éventuellement, avant même que ça arrive finalement. Donc voilà.
Tout à fait, oui. Ça, c'est très important, je pense. C'est pas important dans toutes les familles, comme vous dites, mais particulièrement quand il y a des questions de place et de rôle de chacun, quoi.
Prévenir au lieu de guérir, tout de suite.
Ouais. Et moi, je me pose la question, vous l'organisiez les premières fois où vous étiez ensemble, genre, tiens, on se prend un moment, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, ou est-ce que ça s'est fait spontanément ?
Mais en fait, ça s'est fait spontanément, et en plus, donc les ados devaient partager les chambres. Et donc, c'était... bon, on s'est dit, bon, ils vont un peu râler, puisqu'ils étaient à l'âge où ils avaient entre 12 et 14, à peu près, les ados. Donc, deux garçons, une fille. On s'est dit, ils sont habitués, chez eux, à avoir chacun leur chambre. Et là, quand on se réunit, ils n'ont plus leur chambre. On s'est dit, ça va clasher. Donc, on s'est dit, bon, on verra bien. Forcément, on s'est dit, il faut qu'on mette les garçons ensemble, parce que bon, la fille, du coup, elle avait déjà sa petite intimité. C'est plus compliqué de mélanger filles et garçons à cet âge-là, en tout cas, début de la puberté. Et donc, les garçons se sont super bien entendus. Et puis, il y a eu une grosse, grosse engueulade, mais énorme, pour, je sais pas, une histoire de manette ou de pile, ou enfin, un truc complètement débile. Donc, ils se sont vraiment engueulés. Ils sont partis à pieds nus, chacun de leur côté, dans la forêt. Enfin, bon, bref. Hein. Donc, on s'est un peu regardé. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On leur court après, on leur court pas après. Et puis, on leur a pas couru après. Et le soir, quand ils sont revenus, donc à table, on dit, bon, ben voilà, faudrait qu'on discute un peu. Et là, ils nous font, non, mais c'est bon, ça va. On est super potes, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, voilà, ça a été... on n'a pas trop compris l'histoire, mais ils se sont mis d'accord. Et ça n'est plus jamais arrivé. En 5 ans, personne ne s'est disputé, quoi. Ils se disputent pas. Les enfants ne se disputent pas.
Moralité, une balade pieds nus dans la forêt, ça fait du bien.
C'est ça. Je pense qu'une balade pieds nus en plein hiver, dans une forêt, dans les Hautes-Alpes, ça laisse des traces pour eux. Je pense qu'elle va calmer.
C'est vrai que la question des espaces dans les familles recomposées, c'est quand même une vraie question. Vous les avez toute l'année, tout le temps. Là, ici, j'entends que c'est en alternance. Comment vous allez faire au niveau des espaces ? Est-ce qu'ils ont leur chambre ? Est-ce qu'il y aura une chambre pour le nouveau bébé ? Comment ça va s'organiser ?
Alors, chez leur maman, ils ont chacun leur chambre. Chez nous aussi, c'est un peu plus petit chez nous. Alors, pour le moment, il n'y a pas de chambre prévue pour le troisième ou la troisième. Mmh. On va un petit peu improviser, je crois.
Une cabane de jardin, une tente. C'est vrai qu'on improvise quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'on voit, on prend la température, on voit comment ça se passe. On n'anticipe pas trop. On n'est pas très bon à ce niveau-là.
Je pense que c'est la meilleure façon de faire, hein, de toute façon. Ouais. De laisser venir les choses au jour le jour, et chacun après...
Puis finalement, la solution apparaît.
Oui. Puis on leur propose aussi d'avoir des solutions. Hein, parce qu'on leur avoue qu'on ne peut pas penser à tout. Mm-hmm. C'est pas volontairement qu'on fait les choses mal. C'est parce que on n'est pas parfait. Mm-hmm. Eux non plus. Et donc c'est un travail d'équipe. Je pense qu'on a un petit peu de marge encore pour l'instant. C'est vrai qu'on pourra guère rajouter une chambre.
Oui. Ouais, mais ça se peut que d'eux-mêmes, ils proposent justement d'échanger les chambres. Enfin, moi, je sais qu'au début, ça s'est passé. Hein. Au début, quand donc, on avait juste un appartement, moi, j'avais pas suffisamment de chambres. Donc, ma fille aînée, qui avait 12 ans, donc avait sa chambre. Et elle m'a dit, puisqu'on va vivre tous ensemble, je laisse ma chambre à Fabien, qui lui avait 12 ans aussi. Et elle dit, moi, je vais dans la chambre avec ma petite sœur, qui, elle, avait une très grande chambre, donc, et où on a mis aussi Noah, qui est trisomique. Donc, ils se sont retrouvés à trois dans une chambre. On avait juste mis une espèce de cloison en bois pour séparer un peu la plus grande, qu'elle ait une espèce d'intimité, mais c'était pas réellement. Mais voilà, ça s'est fait qu'ils ont proposé. La petite, elle a dit, oui, moi, je partage ma chambre, pas de problème, pour laisser l'intimité, finalement, à... un garçon où ma fille sentait que c'était peut-être plus compliqué pour lui, puis elle était triste, elle se dit, lui, il a plus de maman, il a... Bon, voilà. Donc, d'elle-même, elle a proposé, et voilà, ça s'est fait de même, en fait.
Et puis, il venait habiter chez vous aussi, en plus, donc elle a senti ça, que c'était...
Mais en fait, non, ça non. Ça, parce que ça, on avait bien dit que c'était pas chez nous. Et c'est pour ça qu'on avait tout remanié. Chacun a changé de chambre. Enfin, tout a été chamboulé.
C'est important,
voilà,
ça.
Ça, c'est important. Et,
pas avoir la sensation de vivre chez... Même pour votre conjoint, de pas avoir la sensation de vivre chez vous.
On a mixé les affaires et c'était pas chez moi. C'était chez nous. Voilà, tout simplement. Ça a été important dès le début. Sinon, c'était... Je pense que ça aurait été trop compliqué, quoi.
C'est très important, ça, d'avoir la maison du couple. C'est pas, on va pas habiter chez l'un ou chez l'autre. C'est vraiment, comme vous dites, soit de remanier tout dans la maison, soit de modifier la location ou je ne sais quoi. Mais il y a quelque chose d'important là-dedans.
C'est une base qui rassure.
De mettre un toit sur le couple et pas qu'il n'y en ait pas un qui soit la pièce rapportée, comme vous avez dit, Lucie. Je préfère dire la valeur ajoutée, moi, mais...
Ah, c'est plus joli.
Oui.
Nous, c'est un peu différent, si je peux me permettre. Oui. C'est que comme on a les deux grands en garde alternée,
oui.
Et ben, ils ont leur chambre, certes, mais une semaine sur deux. Globalement, en sachant qu'assez souvent, les emplois du temps de chacun fait que des fois, on les a une ou deux journées en pleine semaine où normalement, on ne devrait pas les avoir, par exemple. Moi, d'ailleurs, je les remercie de leur tolérance et de leur flexibilité. Mais je me pose la question, avec le nouveau-né qui, lui, va habiter à 100%, du coup, chez nous, comment ça va se passer? Voilà, bon, parce que lui, ben forcément, s'il a sa chambre un jour ou s'il partage avec quelqu'un d'autre, il sera là toutes les semaines, tous les jours. Et, bon, est-ce que ça peut créer des conflits? Est-ce qu'on peut anticiper ça? Est-ce qu'il y a des précédents, j'imagine?
Souvent, on dit qu'il faut qu'au moins les enfants aient leur un coin, c'est-à-dire c'est pas forcément une chambre, mais un endroit où ils puissent laisser leurs affaires. Ils savent qu'on n'y touchera pas, du style une caisse, une malle, un petit endroit qui leur est propre dans la maison, qu'ils puissent avoir leur marque dans la maison. Après, c'est pas forcément la chambre entière, hein, ça peut être une demi-chambre comme vous avez fait, ou un tiers de chambre, mais voilà, qu'il y a un espace où ça, on n'y touchera pas. Ça, c'est aidant apparemment pour les enfants.
Après, là, c'est vrai que vous parlez de garde alternée, et c'est vrai que nous, quelque part, alors, je dis une chance pour nous parents, je sais pas pour eux enfants, mais en tout cas pour nous parents, le fait de pas avoir le deuxième parent de chaque fratrie qui interfère dans la vie, c'est beaucoup plus simple en fait, parce que nous on a notre mode d'éducation avec nos règles, c'est calé, c'est précis, chacun sait ce qu'il a à faire, quand il doit le faire, etc. Et du coup, il n'y a pas d'interférence. Et du coup, ça crée une vraie famille, quoi. Et ça a été plus facile, en tout cas pour nous parents, à le vivre. Après, pour les enfants, alors côté de mon conjoint, je sais que pour eux, voilà, ça a été clair dès le début. Je suis pas leur maman, je le serai jamais. Ils en ont une, malheureusement, qui est partie. Maintenant, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi et que je les aime. Voilà, c'est mes enfants de cœur, hein, comme je dis. Je dis toujours que j'ai 5 enfants. Je compte pas les plus grands parce que je les ai pas élevés, donc j'ai pas le même attachement pour eux. Mais j'ai toujours que j'ai 5 enfants et pas 3. Et par contre, de mes enfants, pour eux, ça a été un peu plus difficile. Ça, je le sais, en tout cas pour la plus petite, dans le sens où, vu que son papa n'a pas beaucoup l'occasion de s'occuper d'elle. Elle a été un peu en colère, en fait, d'avoir à la maison un vrai papa pour d'autres enfants et de voir ce que pouvait être, en fait, un papa. Et ça, c'est quelque chose qui l'a mis un peu en colère. En plus, vu qu'elle est précoce, il se pose énormément de questions et la réflexion va toujours très loin dans la tête de ces enfants-là. Et du coup, sa colère, elle l'a rejetée, en fait, sur mon conjoint. Parce que il était là et pas son père, donc forcément... Et ça a mis un moment à sortir, en fait. Et une fois que ça a été sorti, ça a été rigolo. Ça a été juste par une petite anecdote où je lui demandais un jour de bien vouloir monter le linge dans la chambre de son frère. Donc, sachant qu'elle a qu'un seul frère biologique. Et elle me dit, lequel des frères? Et là, je me suis dit, voilà, c'est bon, c'est passé.
Et c'est souvent par le biais de ces petites expressions comme ça, où on se dit, finalement... C'est intégré et puis la cellule familiale va comme ça. D'ailleurs, Sabrina, vous parliez de ces échanges de chambres, de colocation entre guillemets de chambres. Là aussi, c'est des solutions que les enfants apportent. Comme vous le disiez, Fabrice, des fois, on est un peu débordé, on n'a plus trop de solutions, on improvise. Et là, quand l'enfant trouve comme si c'était une évidence.
Mais c'est
une
ça, l'enfant trouve parce vous, qu'en fait, vous, en il a que, tellement que envie de se sentir bien, et il voit que ça peut être tellement bien que finalement, il se dit non, mais moi, j'ai envie que ça se passe bien. Moi, je peux faire ça, quoi. Ça me gêne pas, sachant que on leur avait dit on ne restera pas là. Puisque c'est pas jouable, donc on cherchera une maison un peu plus grande pour que chacun ait un espace approprié. Donc ils savaient aussi que c'était sur un temps donné. Voilà, c'était pas non plus ad vitam aeternam, quoi.
On va faire une petite pause musicale si vous voulez bien. On va reprendre nos souffles et puis on se retrouve d'ici quelques minutes sur Fréquence Mistral. À tout de suite.
did not. Yes, a heart can hallucinate if it's completely starved for love. It can even turn monsters.
Après cette pause musicale, mais on a tchatché finalement, hein. Ce serait bien qu'on fasse profiter les auditeurs et les auditrices de ce qu'on se disait finalement hors micro avec cette belle musique. Jewel et Gregory and the Hawk, vous êtes sur Fréquence Mistral, merci de nous rejoindre, il est quasiment 9h20 et c'est une émission spéciale Famille Nombreuse ou Recomposée dans le cadre des journées des familles, et ces journées, eh bien, c'est tout le mois de novembre, il y a encore quelques jours. Alors, Marie Domarc et nos invités, d'ailleurs, hein, on va un peu évoquer le relationnel entre les mères, les belles-mères, l'autorité qu'il peut y avoir entre tout ça. Comment vous débrouillez chacun les uns les autres dans votre propre cellule familiale? C'est à vous.
Moi, j'ai envie de dire déjà que je n'aime pas et je n'accepte pas ce terme, la beau-père, belle-mère, ça veut rien dire, quoi. En fait, ça veut dire quoi? Enfin, je sais pas, c'est quoi ce terme? Il n'y a pas de beau-père, pas de belle-mère, quoi. Il y a un papa, une maman, à un moment donné, et à un moment donné, bah, il y a une nouvelle personne qui a un prénom. Et on l'appelle par le prénom, quoi. C'est pas, enfin, beau-père, belle-mère, bel-enfant, beau-fils, belle-fille. Oula, on s'en sort plus, quoi. C'est super confus pour les enfants. On remplace pas leur mère, on remplace pas leur père. Donc, belle-mère, beau-père, pour moi, c'est... Moi, c'est à radier du vocabulaire, hein, déjà. Ça, c'est, c'est un truc... Enfin, moi, à la maison, je dis pas c'est votre beau-père, quoi. C'est non. Mmh. Vous avez un papa, ok, et là, bah, vous avez, voilà, la personne qui est en face de vous, mais vous n'avez pas un beau-père. Mmh. Et moi, je suis pas la belle-mère des enfants, quoi. C'est non, je suis Sabrina, point barre. Mmh. Et ça leur facilite beaucoup les choses, hein, parce que pour eux, du coup, il n'y a pas de d'appartenance avec maman, quoi. C'est, voilà. C'est deux choses bien différentes. Enfin, ouais, moi, voilà, beau-père, belle-mère, pour moi...
Ça cloisonnerait trop les choses, ouais.
Ben, en fait, ça n'a aucun rapport. En fin de compte, on n'a pas de lien de sang avec ses enfants, donc on n'est pas la belle-mère des enfants. Enfin, je ne sais pas pourquoi on a inventé ce terme, en fait.
En plus, c'est confus, parce que la belle-mère, ça peut être aussi la femme de... du père, enfin bref, des grands-parents,
oui,
vous avez
c'est
compris,
pour ça,
d'autres générations au-dessus, on a le même terme pour dire...
C'est vrai,
ouais. Alors belle-mère. Nous, ça va être nos beaux-enfants, enfin
oui,
je sais pas,
c'est... Beaux-enfants.
Non, pour moi, c'est pas mes
beaux-enfants,
c'est...
Enfin,
c'est... Enfin, ouais, c'est
moi, j'ai un ami qui
de
dit, mais... dit pas belle-mère, il dit jolie maman. C'est sympa, c'est rigolo, mais ça me rappelle une histoire où à un moment, donc mes enfants étaient en garderie à l'école primaire, et à un moment, Noé donc dit à l'AVS, ah bah c'est ma belle-mère qui vient me chercher. Et l'AVS me dit, mais c'est sa belle-mère qui vient le chercher. Elle me dit, mais sa belle-mère, mais c'est qui? Il n'y a pas de belle-mère. Et en fait, petit à petit, j'ai compris, il parlait de Lucie, quoi, en fait. Donc lui, il avait plus intégré le mot belle-mère que moi, mais c'est vrai que nous, on l'utilise pas. Hein. C'est pas très joli, quand même.
Bah, c'est pas que c'est pas très joli, c'est que, enfin, je sais pas, ça a aucune signification, quoi.
C'est de différencier la maman de celle qui fait fonction de maman.
Oui,
c'est peut-être
celle...
ça, dans l'idée du langage. Mais
celle qui fait fonction de maman, elle a un prénom, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Mais dans la vie courante, ils vous appellent Sabrina ou ils appellent Lucie, j'imagine.
Je pense que c'est plus les enfants entre eux pour pouvoir définir la personne qui vont utiliser ce mot. Mmh. Mais nous, ça ne nous serait pas venu à l'idée de l'utiliser, effectivement. Mmh. Surtout que c'est pas très joli.
C'est quelque chose de plus de l'ordre de l'administratif, peut-être.
C'est pour différencier les rôles, je pense. Parce que le jour où il y a des jeunes adultes qui présentent, par exemple, le jour où vos enfants seront grands et qui présenteront Lucie à quelqu'un, ils diront « c'est ma belle-mère ». Sinon, ils sont obligés de dire « Lucie, c'est la compagne de mon père ». Alors, ça définit leur lien avec vous. Sinon, ça définit le lien seulement entre vous. Voilà. Je pense qu'il y a cette nuance-là. C'est le rapport que vous avez entre vous. Alors, effectivement, on peut trouver
un
autre terme.
Oui.
On est d'accord.
C'est toujours mieux que le terme anglais, hein, mother-in-law. Franchement, si on le traduisait, la mère par la loi.
Oui, voilà. Oui.
C'est pas très
la marâtre, oui, c'est pas tellement marâtre, sympa non plus, mais c'est ça aussi.
Ça rejoint justement ce côté un peu trop protocolaire, administratif. Ouais. Et oui, je suis d'accord avec Sabrina. Il y a quelque chose de, c'est les sentiments, point. Mm. Voilà. Et c'est quelque chose qui est très âpre.
Mais je trouve que d'entrée de jeu, leur présenter ça comme ça, ça, ça leur met des barrières aux enfants. Ça leur dit, oulala, mère, il faut que je la considère comme ma mère, au secours.
C'est dans ce sens-là vous, que vous dites, au contraire. C'est au contraire pour différencier vraiment le fait que c'est pas leur mère.
Ouais. Oui, mais eux, ils entendent le mot mère. C'est ça qui retient. Oui. Ils vont pas retenir Belle. En plus, ils disent Belle, est-ce qu'elle est belle? Ben bon, voilà, c'est des enfants, quoi.
Et d'ailleurs, au niveau autorité, alors entre le rôle de mère et le rôle de belle-maman, donc. Est-ce qu'il y a quelque chose d'officiel là-dessus?
Non, il n'y a rien d'officiel. C'est comment vous faites, vous?
Ben, pour nous, ce n'est pas compliqué, en fait. Hein. On s'est eu, bien sûr, on a eu les réflexions. T'es pas ma mère, t'es pas mon père. On y a eu le droit. Mais en fait, nous, on n'est pas partis sur cette base-là. Ça a été très simple, en fait. C'est, voilà, il y a deux adultes référents à la maison. Peu importe, un père, une mère, ou pas de père, pas de mère, on s'en fiche en fait. C'est deux adultes référents qui s'occupent de plusieurs enfants. Et c'est pour tout le monde pareil. Et du coup, le cadre a été posé, et c'est le respect aux adultes. Point final. Il n'y a pas de « je suis pas ta mère, je suis ton père, pas ton père », voilà. Et du coup, ça s'est super bien passé. Ils ont pris le cadre tout de suite, ils ont vu que c'était pour tout le monde pareil. Aucune différence, que ce soit une fratrie, l'autre fratrie, voilà, c'est pour tout le monde pareil. Et du coup, ben, ça se passe très bien. Nous, on a fait comme ça.
Au niveau de l'autorité.
Mmh. Ouais.
Et pour vous ?
Nous, ça s'est fait assez naturellement aussi. Hein. On va dire que, oui, je me suis présentée comme une adulte, une parente, je ne sais pas si on peut utiliser le mot, mais dans le cadre de la famille au sens large, dans tous les cas, j'ai le même rôle que Fabrice, donc... Mmh. C'est vrai que quand il est là, j'ai tendance à m'éclipser un peu plus au niveau de l'autorité et à laisser faire un peu plus lui. Mais il n'y a pas de souci quand je les garde ou quand on est tous ensemble. Ils m'écoutent au même titre qu'un adulte auquel ils doivent effectivement une collaboration juste, quoi.
Et vous êtes en soutien aussi à l'autorité de Fabrice quand il est là. C'est-à-dire, ton père t'a dit de faire ça, par exemple.
Oui, ça peut arriver.
On essaye de ne pas se contredire, déjà, entre nous.
Ça, c'est important, oui. Comme tous les parents. Là, ça ne change pas.
Moi, j'y vois un avantage, carrément. C'est que, par exemple, mon fils ira plus facilement faire ses devoirs avec Lucie qu'avec moi. Parce qu'avec moi, il s'inquiète plus. Peut-être la peur de ne pas bien faire. Il a peur que je m'énerve, je ne sais pas. Et je vois bien que, naturellement, il va plus vers Lucie, détendu. C'est même presque agréable. Et moi, j'adore parce que pendant cela, je vais cuisiner, je vais les regarder de loin et je me régale, quoi.
Ça, c'est très important ce que vous dites. On se rend compte que dans les familles recomposées, les enfants trouvent des adultes ressources qui ne sont pas forcément leurs parents. Alors, ça peut être effectivement la belle-mère ou alors dans les enfants, dans la grande fratrie que vous avez, Sabrina, il y a des exemples où on voit qu'une plus petite va prendre le grand de la fratrie d'à côté comme confident, par exemple. Et ça crée des personnes ressources différentes parce qu'il y a moins d'enjeux affectifs. C'est ce que vous venez de dire sur les devoirs. Il y a moins d'enjeux affectifs et avec ces gens-là, on peut se confier. Ou alors, ça va être la grand-mère de l'autre fratrie qui va être la confidente de l'un ou de l'autre. C'est intéressant. La multiplication des adultes référents ou des enfants plus grands va permettre des relations de cœur, comme vous dites. J'aime bien
le c'est sûr, ils vont pas forcément vers leurs parents biologiques
qui sont plus détendus, ce que vous venez de dire, Fabrice, plus détendus.
Je pense que les parents biologiques ne doivent pas tout représenter, en fait. Hein. Moi, j'ai vécu dans des villages en Afrique où des fois on savait pas trop qui était le père finalement. Hein. Tout le monde vivait ensemble et tous les adultes s'occupaient de tous les enfants à un moment donné. Et ça, je trouvais ça très très beau. Moi, je rêverais de reproduire ça avec notre propre culture, hein, mais trouver quelque chose de plus ouvert finalement que la famille nucléaire, comme vous disiez tout à l'heure.
Mais moi, j'ai eu un peu ce modèle étant enfant, puisque mes parents étaient famille d'accueil, donc on avait beaucoup d'enfants de la DAS et de différents foyers, soit qui restaient là en permanence, soit qui étaient là que le week-end ou que la semaine. Bref, on était toujours une dizaine de gamins. Et on était quatre frères et sœurs et puis toujours une ribambelle à côté. Et c'était, mes parents faisaient pour tout le monde pareil. C'est-à-dire quand tout allait bien. Et quand tout allait mal, ben, une fessée chacun, quoi. Et c'est un peu ce que j'ai reproduit à la maison, quoi. Donc, du coup, ça se passe plutôt bien.
Vous saviez comment faire.
Oui, du coup, voilà, c'est ça, vous savez comment faire. Et vous savez que c'était possible.
C'était une évidence, en fait. Je ne me suis pas posé de questions, c'était facile, du coup.
Je pense que c'est ça la difficulté des familles recomposées, c'est qu'on vit avec le mythe de papa, maman et deux enfants. Hein, c'est un peu l'image aujourd'hui idyllique des feuilletons américains. Mmh. Et on s'aperçoit que c'est pas du tout ça, mais qu'il y a pas, en fait, il y a pas autre chose. Il y a des millions d'autres choses.
Ça se crée différemment dans chaque situation.
Il faut s'adapter, quoi.
En fait, une fois que les enfants ont compris que là où ils sont, ça se passe bien, qu'il y a pas de dispute et qu'il y a surtout de l'amour, c'est tout bénef pour eux, quoi. Ils ont encore plus d'amour qu'avant, donc et plus de possibilités et du coup d'autres frères et d'autres sœurs qui peuvent leur apporter d'autres choses avec lesquelles finalement ils ont tout intérêt à bien s'entendre parce que du coup ça leur fait plein de choses supplémentaires donc moi je sais qu'ils adorent être tous ensemble quoi.
Il y a une chose qui est très importante dans tout ce que vous avez dit, c'est que on distingue bien je ne suis pas ta maman, je ne suis pas ton papa. Et du coup, les règles sont faites par les adultes de la maison, mais il n'y a pas de confusion entre l'état de maman et le rôle de maman, enfin, ou de parent et d'éducateur.
Mais surtout pas, c'est là-dessus qu'il faut
les
rassurer.
C'est ça qui est très important, je pense.
Leur dire qu'on ne prendra jamais leur place, surtout moi, que leur maman est décédée, leur dire je ne prendrai jamais la place de ta maman. Ta maman, elle est là, elle existe, elle a existé, elle est dans ton cœur, elle n'est plus là, mais... Voilà, je suis pas ta maman.
Et du coup, vous évoquez les autres parents en présence, ça arrive.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'était une
question. Bien sûr, les enfants de mon conjoint, il y a que celui qui a 17 ans qui peut l'évoquer, puisque Noah, lui, qui est trisomique,
il se rappelle pas forcément.
Il se rappelle pas, et puis il était bébé, hein, donc quand elle est décédée, et du coup, au début, il jouait justement à m'appeler maman en regardant la plus petite, voir si elle réagissait, et il se mettait à rigoler en la pointant du doigt, l'air de dire je t'ai fait une bonne blague, quoi. Donc pendant un moment, je lui disais non, je ne suis pas ta maman, je suis Sabrina, je t'aime très fort, mais je suis pas ta maman, elle est au ciel, enfin voilà. Donc je pense que lui, j'ai pas la sensation qu'il comprenne ça, qu'il comprenne qu'il ait eu une maman un jour. Je pense que pour lui, il a juste un papa et moi. Voilà, je pense qu'il comprend pas. Après, Fabien, ça lui est arrivé de l'évoquer plusieurs fois puisqu'il n'a pas compris le décès de sa maman qui a choisi en fait de mourir. Donc du coup, c'est pour lui une espèce d'abandon. Donc il a mis, c'est quelque chose qui vivait mal, donc il a eu besoin à un moment donné de le sortir, donc on en a beaucoup parlé et ça l'a aidé, et ça lui arrive maintenant de dire je me souviens de ça, je me souviens de ça, donc oui, on en parle. Et après, le papa des enfants, on en parle aussi.
Ça, c'est important de pouvoir évoquer dans la vie de famille, qu'est-ce que vous avez fait avec papa ou qu'est-ce que vous avez fait avec maman dans votre situation. Est-ce que c'est possible aussi chez vous ou c'est quelque chose qui est difficile encore? Ça dépend des relations qui sont installées après la séparation, c'est toujours pareil.
Nous, on parle facilement, je pense. Je raconte beaucoup de choses vécues avant. Parce que la petite avait 4 ans, 3 ans même, à la séparation. Donc je pense que c'est un peu lointain, un peu évanescent dans ses souvenirs. Le grand, lui, c'est beaucoup plus clair. Donc je rejette pas du tout le passé, au contraire. Je parle des bons moments, partagés en famille... Non, je pense qu'on parle assez facilement. C'est plus pour Lucie que ça ne va pas être évident, par contre.
Ah, c'est une vraie question. Comment vous vivez ça, Lucie? Oui.
C'est vrai que je pense que c'est important, peut-être, d'avoir aussi ses propres enfants pour la personne qui vient pas en plus, comme vous dites. Pour créer une espèce d'équilibre, parce que c'est vrai que si je n'avais pas la perspective d'avoir des enfants moi-même, ça pourrait être un peu frustrant, parce qu'on rentre quand même dans une cellule familiale. On sait qu'on n'aura pas la relation de maman, effectivement, c'est clair. Hein, on sait qu'il y a une limite, on la touche parfois, et on se dit, c'est un peu frustrant. Donc c'est chouette de recréer après un équilibre à partir de ça. Mais après, l'évocation du passé, La maman, l'autre maman, c'est pas un problème, parce qu'en plus on s'entend plutôt bien.
D'accord, ok.
Donc, non,
donc
au contraire, moi
je suis
plutôt
aussi,
ouverte de partager avec eux leur expérience.
Il n'y a pas de tabou, je pense. Ils sentent qu'ils peuvent tout dire, ils peuvent tout demander. Il faut prendre des formes, mais on peut tout se dire, oui.
La chose qui va être différente, en fait, pour vous, de ma situation, c'est que du coup, pour Fabrice, c'est ça? Donc ce sera tes 3 enfants.
Eh oui. Eh oui. Et plus, si affinité.
Donc, ce qui veut dire que, enfin, dans cette cellule familiale, tu connaîtras pas le fait, en fait, d'élever des enfants qui ne sont pas à toi, de les aimer, mais d'avoir cette limite dont parlait Lucie.
Ah, c'est évident. Hein. Moi, ouais. J'ai le beau rôle. Hein. Je pense.
Parce
que
c'est... ça, c'est pour comprendre ça. En fait, je pense qu'il faut le vivre, quoi.
C'est pour ça que on discute beaucoup, hein, que je lui propose, voilà, de me dire ce qu'elle a sur le cœur. Quelquefois, moi-même, j'anticipe. Je lui dis, ça va, tu vas bien? Elle me dit, ben oui, pourquoi? Ben, je dis, j'ai l'impression que... Bon, alors, ça peut être des sujets d'incompréhension entre nous, par contre. Mais avec le temps, bon, ben, on se détend un peu plus, on s'inquiète moins vite. Enfin, je parle pour moi, en fait. Hein. Mais c'est vrai que moi, des fois, je m'imagine être à sa place. Je lui dis, ben, bravo, quoi, en tout cas, parce que... Faut beaucoup de patience, de
tolérance. Donc c'est bien, vous arrivez à en discuter, ouais. Parce que je me posais la question, du coup, parce que c'est vrai que ça fait, vous n'êtes pas dans la même situation, quoi.
Oui, et du coup, c'est vrai que pour moi, les temps de couple sont importants quand même. Du coup, pour compenser un peu peut-être la frustration affective qu'il peut y avoir, c'est bien aussi d'avoir des moments où on est juste à deux. Voilà.
Mais ça, c'est quelque chose qu'il faudra réussir à conserver. Hein. Alors, moi, je sais que 2 jours par mois, on n'a pas les enfants. 2 jours par semaine, par mois, on arrive à se caler et c'est sans les enfants, quoi. Et si on n'a pas ça, je pense que clairement, on se sépare très vite. Parce qu'on
nous,
on est trop occupés.
C'est différent, forcément, parce que c'est 1 semaine sur 2. Alors, quelquefois, certaines personnes nous disent c'est génial. C'est clair, comme ça, pendant 1 semaine, t'es tranquille. Alors, déjà, j'aime pas le mot tranquille, c'est comme si je me débarrassais de mes enfants avec plaisir. Et puis comme ça, on peut faire plein de choses entre nous. Alors, je dirais, on n'est pas des machines. Il suffit pas de se dire, bon, alors ça y est, ça c'est le moment à nous. Alors, faut en profiter à fond. Puis, ah ben non, c'est le moment famille maintenant. Donc, je suis moins disponible peut-être pour notre vie de couple. Parce que je veux profiter de mes enfants, justement, je les ai là. Et bon, on jongle un peu quand même. Hein. Donc, globalement, ça se passe bien. Mais c'est vrai que j'aime pas un peu injonction à tiens maintenant faut profiter de ta vie de couple là maintenant c'est famille bon je préfère quelque chose de plus équilibré.
Oui, quelque chose de plus équilibré, mais c'est vrai que nous on est 7 en permanence. Le week-end, généralement, il y a les plus grands qui viennent manger, les copains, les petits copains, les petites copines, hein. Bref, on se retrouve, on est 15. Voilà, pour le peu qu'on ait la petite fille à garder qui a 4 ans, bon ben voilà, ça rajoute du machin, et, hein.
Donc c'est votre conjoint et grand-père, c'est
oui,
ça.
Oui, oui. Donc voilà, ça fait du monde. Donc c'est vrai que quand on a 2 lundis par mois de RTT. Et là, on les met tous à l'école avec un grand coup de pied aux fesses. Et voilà, et c'est trop bien, quoi.
Donc, vous êtes aussi belle-grand-mère, alors, c'est ça, en fait.
Ouais, existe, c'est ça, ça ouais. Enfin, j'ai horreur de ce nom, ouais, c'est ça. Enfin, Sabrina, quoi.
Alors, c'est vraiment important ce que vous dites, parce que organiser la famille, quelle qu'elle soit, hein, mais recomposer en particulier, c'est vraiment d'abord veiller à préserver le temps et l'espace pour le couple. Vous êtes les piliers, sinon ça se casse la figure. C'est vraiment important. Et des fois, il faut un peu organiser. Ça, c'est la thérapeute de couple qui parle, hein, je suis désolée, c'est mon dada, mais il faut vraiment prendre le temps d'organiser malgré tout, même si c'est un peu, comme vous dites, artificiel, parce que c'est ce jour-là et ça ne va pas être un autre jour parce qu'on n'y est pas arrivé, surtout quand vous allez avoir un bébé. Il va falloir aussi prendre ce temps d'organiser votre espace à tous les deux.
C'est vrai que nous, maintenant, on l'organise moins parce qu'on a des plus grands à la maison en capacité de gérer les plus jeunes. Donc, du coup, des fois, on leur dit, tiens, est-ce que samedi soir, t'es là? Ah non, moi, je suis pas là, je t'avais dit, ok, toi, t'es là, oui, moi, je suis là. Tu jettes un œil aux petits, tu les fais manger, oh, oui, pas de souci, allez-y. Voilà, donc c'est vrai que maintenant, ça devient plus simple pour nous, parce qu'il y a des plus grands, mais il y a quelques années en arrière, nos lundis, c'était youpi, quoi.
Tout à fait.
À propos de belles grands-parents, grand-mère, grand-père, justement, abordons la phase grand-père, grand-mère, comment ça se passe pour l'un et pour l'autre.
Eh bien, du coup, moi, j'ai apporté des grands-parents en plus ou moins.
Mais oui.
Pour nos deux petits. Et ça se passe très bien parce que ils sont cool de toute façon. Donc la plus petite, elle est très affectueuse, donc tout de suite elle a créé un lien avec ma mère qui est assez proche, je trouve. Elle lui fait des câlins, tout ça. Voilà, donc ma mère est ravie parce qu'elle a déjà d'autres petits-enfants de mes frères, mais elle les voit pas souvent, ils sont loin quand même. Donc ça lui fait un peu des petits-enfants sur place qu'elle voit de temps en temps. C'est les débuts, hein. On peut pas dire qu'il y a encore une vraie relation, mais je pense que tout le monde en est content, en tout cas. Et mon père aussi s'amuse bien avec, avec la petite. Plus avec la petite, ou quoi qu'avec le grand aussi. Hein. Bon, il est plus. Forcément, il est plus grand, il est plus distant, mais la relation est plutôt bonne. Ouais.
D'ailleurs, je ne sais plus si c'est la petite ou le grand qui a dit ah bah, c'est bien, on a trois papis, trois mamies. Parce qu'ils ont la chance déjà d'avoir les deux autres. Et j'ai trouvé ça chouette, hein, parce que j'aurais jamais pensé possible, même cette idée, mais je pense que ça doit être elle, hein, à mon avis. C'est ce genre de réflexion qu'elle fait. Voilà, elle se dit c'est gagnant en fait. Hein. Elle a gagné deux papy et mamie en plus, qui sont proches, pas très loin, parce que les autres sont à plusieurs centaines de kilomètres. Donc finalement, ils vont peut-être créer un lien peut-être finalement plus proche avec leur papy ou mamie, on va dire historique. Je sais pas si on peut dire ça.
Génétique, oui, voilà, presque. Enfin,
En tout cas, c'est chouette. Non, c'est des bonnes choses à prévoir. Ce qui est pratique pour nous, c'est que finalement, les étapes s'enchaînent bien. On a le temps de se connaître, de créer du lien. Le bébé va arriver, je pense, au bon moment. Du coup, ça va probablement nous rapprocher des parents de Lucie. En tout cas, je le souhaite. ça nous permettra d'avoir un samedi soir, peut-être, de temps en temps.
C'est ça.
Faut bien avouer que c'est pratique. Moi, je ne sais pas si eux le voudront, hein, parce que c'est des grands-parents très actifs. Mais voilà, donc je pense que voilà, tout se passe bien, ça, c'est vrai que ça... Parce que c'est le problème des familles recomposées, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas écrit, quoi. On peut pas dire voilà comment ça va se passer.
Ça s'invente.
Ça s'invente chaque jour.
Il n'y a pas de scénario préétabli. Hein.
Il faut prendre les choses avec envie, avec espoir et se dire bon, on va trouver des solutions, quoi. Parce que quelquefois on peut dire mince, mais comment on va faire ? Parce que tout change. Et là, ça change aussi pour les enfants, donc ça peut être angoissant. On n'aime pas trop le changement en général. Là, on fait tout pour se rassurer. Et là, d'un seul coup, pof, ça nous tombe dessus. Mais de toute façon, c'est la vie, en fait. Ça bouge de plus en plus. Donc c'est bien qu'on puisse montrer qu'il y a que ça fonctionne, qu'il y a différentes recettes et que ça fonctionne toujours, je pense, globalement. Hein. On y arrive, quoi.
Après, il y a des situations où c'est moins facile. Hein. C'est pas parce qu'on est des parents aimants que tout le monde est obligé de s'aimer. Ça, c'est peut-être important aussi. Là, on a des exemples où ça se passe bien, donc c'est super. Oui, c'est magnifique ce que vous vivez tous. Mais il y a des situations où, ben, oui, les parents s'aiment, mais tout le monde s'aime pas dans la fratrie, ou tout le monde n'aime pas le grand-père ou la grand-mère qui arrive en plus, ou voilà.
Moi, je trouve que souvent les problèmes aussi ils émanent, parce que bon, j'ai des familles recomposées autour de moi, et donc ils nous disent ah mais comment vous faites ? Et moi je leur dis ben déjà je suis désolée, mais quand je vous vois faire avec ces mes enfants et ça c'est tes enfants, bah déjà pour moi c'est juste pas possible quoi. On n'y arrivera pas quoi. Enfin vous pouvez pas y arriver. Déjà les enfants ils sentent que il y a une fracture entre tes enfants mes enfants et tu n'as rien à dire parce que c'est mon enfant. Donc s'il a fait ça c'est à moi de lui dire quelque chose et toi en gros tu te tais quoi. Donc déjà c'est l'enfant il est loin d'être bête hein, donc il le sent hop il s'engouffre dans la faille et vas-y que je te fais pire qu'apprendre quoi. Donc il y a plein de gens qui réagissent comme ça à partir du moment où le conjoint va gronder notre propre enfant. Moi ça m'arrive des fois de pas être d'accord. Ça m'arrive, mais je dis rien, quoi. Surtout, je dis rien devant les enfants. J'attends, il se fait gronder. Il se fait gronder, il va pas mourir. Hein. Ça nous est tous arrivé de nous faire gronder injustement, j'ai envie de dire. Et j'attends, voilà, que l'enfant soit parti dans sa chambre boudée ou peu importe. Et après, on en discute. Et je dis, bon, je suis pas tout à fait d'accord pour ça. Je peux changer d'avis, je peux me dire, oui, effectivement, t'avais raison. Et dans le cas où ça a été injuste, voilà, après, on est en capacité de rappeler l'enfant, de dire, bon, on s'est emballé, effectivement. T'avais peut-être pas tout à fait tort, ou c'était peut-être pas tout à fait toi, etc. Mais quand je vois autour de moi là, les gens qui disent c'est mon enfant, donc c'est moi qui le gère, mais on vit ensemble, comment l'enfant il se retrouve là-dedans quoi. Moi, ça me...
Quand il y a des éducations très différentes, c'est très compliqué, effectivement.
Ah oui, je ne vois pas comment ça peut fonctionner.
On n'a pas les mêmes façons ou les mêmes valeurs que l'on veut transmettre, c'est compliqué.
Après, c'est comme toujours, il faut le dire. Nous, on fait attention de ne pas dire du mal de la maman, par exemple. Et je pense qu'elle fait de même. Même si on blague, on va pas hésiter à appuyer. Mais c'est vraiment sur le ton de la blague, on en parle pour montrer que c'est détendu, qu'il n'y a pas de froid. De toute façon, moi, je leur dis, on communique beaucoup avec sa maman, donc faut pas qu'ils s'inquiètent. Et en même temps, faut pas non plus qu'ils cherchent à nous monter l'un contre l'autre. Et du coup, je pense que pour Lucie, c'est quand même plus confortable de savoir que la maman, eh ben, je sais pas, enfin, elle fait corps, quoi. Hein. Mmh. Finalement, on est les adultes référents, comme tu disais tout à l'heure, ça c'est
génial. C'est ça qui est important.
Voilà. Et ils sentent qu'on est là, quoi. On est présent et qu'on s'entend bien.
Voilà. Puis après, pour en revenir aux grands-mères et aux grands-pères, bon, de notre côté, il reste que les grands-mères. Donc, ben, avec ma mère, ça se passe très bien et très facilement, ben, vu qu'elle était, elle a accueilli des enfants toute sa vie. Donc, elle ne fait aucune différence entre les petits-enfants. Pour elle, c'est ses petits-enfants. Donc, ils l'appellent mamie d'ailleurs. Hein, ça, c'est même les grands, ça s'est fait très. Même là, du coup, la petite fille qui a 4 ans l'appelle mamie. Donc voilà, ça s'est fait. On n'a pas eu besoin de dire les choses. Elle les prend même parce qu'elle habite sur la Côte d'Azur. Donc l'été, quand on est un peu coincé, elle les prend volontiers en vacances à la plage. Voilà. Donc du coup voilà. Et puis du côté donc pour le coup de ma belle-mère, mais cette fois-ci ouais, ma belle-mère.
Comment
dans le bon terme. Voilà, et ben donc elle, voilà, c'est la mémé, et c'est la mémé de tout le monde, et il n'y a pas de souci non plus, quoi. Ils ont été adoptés tout de suite, voilà, donc c'est plutôt sympa, du coup.
Très bien, est-ce qu'on a fait le tour, vous voulez évoquer encore d'autres choses, il y a des choses peut-être qui vous viennent à l'esprit Marie, peut-être.
Je me posais la question. Enfin, quand on arrive dans un nouveau couple, il y a des fois des situations quand vous parliez de tout le monde pareil pour tous les enfants. Quelquefois, les enfants ont besoin d'un temps d'adaptation et quelquefois ils ont besoin aussi de temps privilégié. Mais c'est pareil dans une famille qui n'est pas recomposée. De temps en temps, il y a besoin d'un temps rien qu'avec un enfant, rien qu'avec maman ou rien qu'avec papa, parce que ils ont ces besoins-là aussi. Donc c'est pas forcément tout le monde tout en même temps, c'est aussi privilégier ces moments-là.
Oui, je parlais pas du temps imparti avec eux, je parlais de des règles. Et des règles, c'est pour tout le monde pareil. Si on va faire quelque chose pour l'un, on va équilibrer pour l'autre, même si c'est pas les mêmes besoins. Mais on leur expliquait que c'est pas parce que un va avoir besoin de ça et qu'on va dépenser une somme d'argent pour l'un, on va pas le faire tout de suite pour l'autre parce que c'est pas un besoin immédiat, mais quand il va en avoir besoin, on va le faire. C'était plus tout le monde pareil dans ce sens-là.
D'accord.
Et pas toi t'es mon fils, donc oui, je te donne ça, puis toi t'es pas mon fils, donc ma foi, si t'es un peu moins, c'est pas très grave. Après, effectivement, quand les enfants ont besoin d'un temps, on le prend et il n'y a pas de souci. Et ça arrive de faire des choses qu'avec les petits, ça arrive de faire des choses qu'avec les grands, ça arrive de faire une après-midi juste avec un des enfants parce que on voit qu'il en a besoin ou parce qu'il en fait la demande. Mais en général, ils n'en ont pas envie d'être tout seuls.
Oui,
ils n'ont pas envie.
Ils ont vraiment créé déjà la famille.
Ils n'ont pas envie. Là, en plus, les trois plus grands sont maintenant partis en études. En semaine, ils ne sont pas là. Ils ne rentrent pas forcément tous les week-ends. Donc, ça crée un manque chez les plus jeunes, qui l'expriment. Même le petit trisomique qui nous dit, quand est-ce qu'il rentre, quoi. Voilà, ça le perturbe d'être. Il s'ennuie, quoi. Finalement, des fois, on se retrouve la semaine, on est quatre. Donc, il se dit, au secours, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ils mettent la table, ils sont là, mais on est quatre. Voilà, donc des fois, ils peuvent nous dire, c'est cool, parce que du coup, on est que quatre, donc on fait des choses qu'on ne fait pas. On peut faire des petites sorties resto, chose qu'on ne fait jamais quand on est tous, parce que sinon c'est juste budgétairement pas possible. Et du coup, c'est vrai qu'on fait des choses qu'on ne faisait pas avant, et juste avec les petits. Donc ça, ils aiment bien. Mais le fait qu'on soit moins nombreux, ils n'aiment pas.
Là aussi, il faut s'adapter. Et puis il y a des solutions qui viennent comme ça. Et ça, c'est relatif à toutes les familles finalement, pas forcément dans le cadre de familles recomposées.
Bah oui, je dirais finalement, pour que ça fonctionne, c'est les trois grandes règles de la vie en société, hein, c'est communiquer, communiquer et communiquer. C'est très important.
Et, ça, c'est sûr.
Et je dirais aussi, c'est jamais figé, qu'il y a tout qui évolue, donc c'est toujours à inventer, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de recette toute faite. Et pour créer une famille, il y a aussi toutes les questions de rituels. Vous savez, une famille, ça se définit par une idée de la famille, mais ça se concrétise souvent par des rituels, par des fêtes, par des choses comme ça, ou des vacances en commun. Comment ça se fabrique, ça? J'imagine que vous avez déjà vos habitudes.
Nous, les anniversaires, par exemple, moi, ce que je faisais avant donc d'être en famille recomposée, c'est que pour les anniversaires, je laisse toujours le choix du repas à l'enfant. C'est-à-dire qu'il peut choisir ce qu'il veut. je lui fais. Mm-hmm. C'est voilà, il me choisit d'hamburger maison, il va me choisir une raclette, il va me choisir, je sais pas moi, des lasagnes, enfin ce qu'il veut, le dessert qu'il veut, etc. Donc ça, c'était déjà instauré avec mes enfants, donc j'ai proposé, j'ai dit bah voilà, nous on fait comme, enfin. Est-ce que pour ton anniversaire tu veux donc alors là oui alors ils savent hein, là pour les anniversaires ils savent j'ai le SMS même s'ils sont à l'internat quelques jours avant au fait pour mon anniversaire je veux bien un tiramisu ça ceci c'est ça donc voilà donc ça c'est instauré pour les anniversaires donc
moi aussi je veux bien un tiramisu pour
voilà
on va conclure l'émission comme ça finalement oui
finalement voilà et après les fêtes ben qu'est-ce qu'il y a comme fête après, je sais pas.
Ou les vacances, je sais pas. Enfin, ou bien des habitudes, je sais pas. On voit la tisane. Enfin, vous savez, les petits rituels qui font que.
Nous, on a juste un rituel avec les deux plus jeunes parce que bon, les ados, clairement, fous les câlins.
C'est plus le temps.
Si, mais c'est quand eux ils ont décidé. Donc voilà, mais voilà, c'est clairement après. Donc nous, on mange jamais trop tard le soir. Et donc après le repas, ouais, il y a une demi-heure où on se pose dans le canapé avec les plus jeunes et où c'est un moment où on est tous les quatre, on fait des câlins avant qu'ils aillent se coucher. Ça, les rares fois où on saute ce moment-là parce que on est rentré tard, qu'on a mangé tard, bref, qu'il y a un événement qui fait qu'on le fait pas, ils sont pas contents. Ça leur va pas. Ils vont se coucher, mais ils sont pas bien, quoi. Voilà, et ils nous le font bien remarquer le lendemain en disant ouais, mais on l'a pas fait hier, donc ce soir on fait plus longtemps. voilà, on rattrape.
Et chez vous, il y a déjà des rituels en place de vacances, de oui, je sais pas, de sortes.
Pour les vacances, je dirais pas encore. J'essaye encore de respecter un peu leur rituel à eux. Je trouve que c'est important aussi qu'ils passent du temps avec ses enfants en mode vacances parce que ça leur fait du bien à tous les trois, je pense.
D'accord, donc ils ont des temps seuls avec leur papa, c'est ça que vous êtes
ouais,
en train de dire.
On fait un peu moitié-moitié pour les vacances.
C'est bien, oui.
Mais après, quand je suis là aussi, c'est super, il n'y a pas de problème, mais je trouve ça bien qu'ils se retrouvent aussi un petit peu à trois pour le moment.
Mais on se fait aussi des câlins à quatre sur le canapé. soit on va se faire, ils adorent si on leur dit allez, on se fait un jeu. On mange tôt, comme ça on se fait un jeu avant d'aller se coucher tous ensemble. Et voilà, ça se passe très bien. Ils adorent, ils le réclament. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très rituel quand même.
D'accord.
On n'a pas instauré quelque chose d'officiel.
Ça se fera.
Je pense que ça se fera peut-être effectivement sur
Le nouvel enfant.
Nous, ça s'est fait tout seul. C'est parce qu'en fait, on est tellement toujours à fond quand on est tout le monde que se poser et faire un câlin avec les plus petits, c'est un luxe, quoi. Donc, du coup, c'est vrai qu'une fois que voilà, tout est fait, tout le monde a mangé, tout le monde est douché, tout le monde est dans sa case, j'ai envie de dire, là, on peut se poser. Donc, c'est le moment de se poser avec les plus jeunes pour qu'après, ils aillent au lit, pas trop tard, sinon le lendemain, c'est compliqué. Et surtout pour qu'après, nous, on se retrouve entre nous, quoi, juste le couple. Bon, bien sûr, avec les ados qui viennent, mais c'est pas, ils sont pas en demande de quelque chose, ils font leur vie. Donc, du coup, ça permet à chacun d'avoir un temps et finalement, surtout d'avoir le cadre, parce que sans cadre, c'est ce qui fait le plus peur à un enfant, c'est de ne pas avoir de cadre. S'ils ont pas de cadre et pas de limite, je pense que du coup, ils paniquent vite, ils angoissent et c'est là où ils deviennent insupportables parce qu'ils se sentent pas bien, quoi.
Tout à fait.
Il est quelle heure ? 9h50. Eh bien, si vous n'avez plus rien à déclarer...
Pour moi, c'est bon, je pense.
Marie, qui lève le doigt peut-être.
J'ai à déclarer une conférence qui aura lieu au mois de mars sur les familles recomposées avec quelqu'un qui a écrit un livre « Former une famille recomposée heureuse ». Qui en a l'expérience puisque c'est un couple avec des enfants qui s'est recomposé eux aussi. Et il s'agit de Jean-Paul Sauzet, donc qui est thérapeute familial et de couple et à la fois qui a cette expérience-là. Il a écrit ce livre et donc il viendra le mardi. Oh là là, j'ai oublié la date. 4 mars ou 5 mars, je ne sais plus.
C'est un mardi le 4 mars.
Mardi 4 mars alors.
Alors, je vais vous dire ça. Tac 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 tac.
J'aurais dû l'écrire.
Mars, c'est un 5.
Le 5 mars.
Mardi 5 mars.
Voilà. Et donc, l'horaire et le lieu seront communiqués dans la presse et évidemment sur Fréquence Mistral pour que beaucoup de personnes puissent venir.
Et toujours dans le cadre des journées des familles, une date à signaler ce samedi 24. du côté du Cerrois à l'Araignée à 16h à la salle des fêtes de Méreuil. Théâtre et chansons avec une journée sans télé, figurez-vous, par la compagnie Le Bonbon qui pique, c'est à partir de 4 ans, suivi d'un goûter, comment passer une journée sans télé, le défi relevé par des enfants d'ailleurs et une maîtresse d'école disjonctée en plus. Donc là, pour ça, vous contactez la MJC de Serres, si cela vous intéresse, au 04 92 67 09 03. Ainsi s'achève cette émission spéciale. Merci de nous avoir écoutés. Si vous l'avez prise en cours, eh bien, elle sera disponible.
Merci
à vous. On va déguster un tiramisu que Sabrina nous a préparé, bien sûr. Et puis pour le nouveau ou la nouvelle venue, hein, on vous souhaite plein de bonheur. Fabrice et Lucie,
merci,
et puis vous-même, Sabrina aussi, avec,
merci,
avec votre belle
famille. On viendra
famille.
Faire une émission sur l'arrivée d'un nouveau-né,
voilà,
dans une famille recomposée.
Ce sera la suite. Merci Marie aussi d'avoir élaboré cette émission avec nous. Dans quelques instants, le journal régional, il sera question d'autisme. À Gap, au diocèse, il y a deux soirées de ça, une projection débat sur le thème de l'autisme et l'amour. Et ce sera dans le cadre du journal régional qui traite de l'actualité du 04, mais aussi du 05. On se quitte en musique avec Neil Casal.
You can't ask why, you just have to believe. There's nothing I can do, you're so far from me now.